Chapitre 3. Au cours de cet été-là et de l'hiver suivant, la comtesse de Ronchais étendit beaucoup le cercle de ses relations. Elle savait être aimable, insinuante, serviable. Elle flattait, de façon très habile, et plaisait aux hommes par sa beauté, sa coquetterie savante, son intelligence, aux femmes par son affabilité, sa complaisance, et cet art de s'adapter au caractère, aux goûts, aux opinions de chacun, qu'elle possédait à un haut degré et qui avait si bien trompé la pauvre madame de Pinvalas. Elle devenait ainsi une des personnalités en vue de la société mondaine. On citait son nom, ses toilettes, on disait d'elle la belle comtesse de Ronchais, une de nos plus charmantes parisiennes. Elle était entourée d'hommages, avait une cour masculine fort empressée, où se trouvaient accueillis avec une ferveur spéciale les personnages ayant des attaches avec la politique, la diplomatie ou l'armée. Quant à Maurice, maintenant que par lui Elsa avait atteint la situation désirée, il se trouvait relégué au cinquième dessous, comme le disait Ulrich Mulbach, très grand admirateur de l'habileté dont faisait preuve sa jeune parente. La vérité, c'est que M. de Ronchais commençait d'éprouver qu'Alain avait vu juste en lui prédisant qu'Elsa Hoffel ferait son malheur. Ouvertement dédaigné, traité en quantité négligeable, il tremblait devant cette femme qui avait su prendre sur sa nature molle et vaniteuse un empire souverain. Et, peureusement, trop veule pour réagir, il courbait la tête, acceptait tout, payait sans compter les plus coûteuses fantaisies de la comtesse, avide de compenser par le luxe et les plaisirs les années dépendantes de son adolescence. Mais cette existence mondaine ne lui faisait pas oublier l'autre face de la vie, cette œuvre secrète qu'elle poursuivait depuis l'enfance, avec une tenace patience. Un matin d'avril 1914, elle entra dans les salons de Mulbach et compagnie, dont elle était une des clientes de choix, ainsi que le prouvait d'ailleurs l'empressement de la première. Madame de Ronchais déclara « Je voudrais parler à Madame Valentin, mademoiselle, au sujet du règlement de ma note. » La jeune fille s'éloigna, et presque aussitôt la gérante apparut, affable, souriante, selon sa coutume. « Voulez-vous entrer au bureau, madame la comtesse ?» Elle la précéda vers la petite pièce, dont elle referma la porte sur elle, soigneusement. La comtesse s'assit, et madame Valentin prit place en face d'elle devant le bureau. Elsa demanda à mi-voix en allemand. « Avez-vous pu avoir les renseignements que je souhaitais par cette jeune Russe, votre cliente ?»« Impossible, madame. Je crains déjà d'avoir éveillé chez elle quelques soupçons. Elle est beaucoup plus fine qu'elle ne le paraît, cette petite jeune femme, je le crains. » Elsa, les sourcils froncés, frappa du pied. « Il me les faudrait, pourtant. On me les demande de Berlin, en paraissant y attacher une grande importance. » Madame Valentin eut un geste d'impuissance. « Je ne crois pas qu'il y ait rien à faire chez elle, je vous le répète, madame, mais ne peut-on chercher ailleurs ?»« Non, c'est son père, important fonctionnaire du ministère de la guerre, qui a entre les mains les pièces intéressantes que voudrait posséder notre état-major. Il faudrait que nous ayons au moins un indice sur le lieu où elle se trouve. Et je ne vois personne d'autre que Madame Velianoff pour nous fournir cette indication. Michel Sémine seul sait ce que contiennent ces pièces et où elles sont cachées. Vraiment, je ne vois aucun moyen. Madame Velianoff se méfierait, je le répète, si j'allais plus loin. C'est ennuyeux, tout à fait ennuyeux. Elle est riche, m'avez-vous dit, cette Madame Velianoff ? Très riche. Alors rien à faire dans ce sens-là. Mais j'y pense, n'est-elle pas un peu à couteau tiré avec son mari ? C'est-à-dire que M. Velianoff est jaloux et que la jeune femme se trouve excédée de cette suspicion continuelle. Suspicion justifiée ? Peut-être un peu par ses allures, par ses goûts du flirt, mais on dit qu'au fond elle est honnête et reste malgré tout aussi attachée à son mari. C'est égal, on pourrait peut-être trouver là un moyen de chantage pour la faire marcher. Mais il faudrait du temps, et là-bas, on voudrait avoir les pièces le plus tôt possible. » Madame de Ronchais demeura un moment songeuse, le coude appuyé sur le bureau de la gérante, le menton sur sa main. Puis, relevant la tête, elle dit d'une voix plus basse encore. « J'ai l'impression, Rosa, que le moment approche, le moment où l'Allemagne, prête enfin, armée de toute façon, enverra sur la France son irrésistible torrent de soldats. D'ailleurs, M. de Reichensfeld, qui doit en savoir assez long, ne dit pas non quand je l'interroge. » Rosa demanda. « Comment va-t-il, monsieur le baron? Est-il vraiment tout à fait remis ?»« Oui, complètement. Ce séjour à Menton a fait merveille. et en même temps cet hiver il a pu s'occuper là-bas de quelques petites affaires intéressantes. Le voilà revenu, prêt à continuer l'œuvre si utile à notre patrie. Allons, Rosa, je vous laisse. Dites-moi donc, Klaus Steibmann est toujours employé aux grandes galeries parisiennes ?
Toujours, madame.
Et c'est un employé modèle, m'assure-t-on. Fort bien, c'est une bonne chose d'avoir quelqu'un à nous dans ces grands magasins. Si, par impossible, les Français tentaient une résistance un peu longue, il serait utile de voir à détruire le plus possible de leurs approvisionnements en tout genre. Voyez donc à en faire placer d'autres ailleurs, Rosa.
Je m'en occupe, madame. Et à propos, j'ai trouvé aussi un excellent poste pour la jeune femme dont vous m'avez parlé.
Pour Frédérica, ou donc ?
Chez Barville, le frère du député. Ce sont des gens très bavards, qui ont, en outre, la vanité de se montrer toujours les mieux informés. Si la personne en question est à droite, elle peut recueillir là des choses intéressantes. Très adroite et souple, très agréable. La famille qu'elle vient de quitter, soi-disant pour raison de santé, en réalité parce qu'elle en avait tiré tout ce qu'il nous était utile d'apprendre, s'en montrait enchantée et la regrette beaucoup. Envoyez-la moi, je lui donnerai un mot pour madame Barville, une de nos bonnes clientes.
Entendu. Au revoir. Et après avoir tendu la main à madame Valentin, Elsa quitta l'entresol et regagna l'automobile qui l'attendait. Villa des Lauriers, à Saint-Germain. Là, dans cette demeure appartenant à un riche commerçant allemand, vivait Friedrich de Reichensfeld depuis sa fâcheuse aventure. Peu désireux de voir dévoiler sa personnalité d'espion de haut rang, ce qui eût pu se produire si le lieutenant de Pinvalas, fort perspicace au dire d'Otto Mühlbach, avait entrepris une enquête à son sujet, il jugeait préférable de faire le mort, même pour ses connaissances parisiennes. D'ailleurs, il était fort atteint, et sa santé demandait encore des ménagements. Le séjour d'hiver à Menton lui avait été très favorable, comme venait de le dire Elsa à madame Valentin, et il espérait se trouver dans 2 ou 3 mois complètement rétabli. Mais il ne restait point inactif, il avait, dans le monde où l'on s'amuse, des complicités qui continuaient pour lui leur travail, qu'il classait et expédiait à qui de droit. Elsa était un de ses agents les plus actifs, les plus intelligents, mais aussi le plus indépendant et le plus susceptible. Il y avait parfois entre eux des froissements, des échanges de mots désagréables, quand le baron se laissait aller à son arrogance naturelle, ou qu'Elsa prétendait faire dominer ses idées. À d'autres moments, Friedrich se montrait trop aimable, faisait la cour à la jeune femme, qui feignait de s'en montrer offensée, quoiqu'elle fût extrêmement flattée, au fond, de ces hommages rendus à sa beauté par ce noble personnage, apparenté aux plus grandes familles de Prusse. C'était donc pour le voir que madame de Ronchais se rendait cet après-midi à Saint-Germain. Mais le portier de la villa des Lauriers, un authentique poméranien, l'informa que monsieur le baron venait de partir pour Versailles, où il avait affaire. La comtesse reprit donc le chemin de Paris, fort ennuyée de ce contretemps, car elle avait des instructions assez pressantes à demander. Dans la rue de Rivoli, sa voiture croisa une automobile conduite par un chauffeur en sobre livrée. À l'intérieur étaient assises 2 femmes, une vieille dame et une jeune fille, et en face d'elle, un jeune officier de dragons. La vieille dame était la marquise de Pinvalas, la jeune fille Florita de Valserre, l'officier Alain de Pinvalas. Madame de Ronchais vit tout cela d'un coup d'œil. Son regard se croisa avec celui de Florita, fier et presque méprisant. Puis les voitures passèrent. Et Elsa se renfonça dans les coussins en serrant violemment les lèvres. Son cœur bondissait de rage haineuse. Ah, cette Florita détestée, la bien-aimée de ce bel Alain, dont la comtesse venait d'entrevoir la séduisante physionomie non oubliée encore, loin de là. Jamais mademoiselle de Valserre ne lui avait paru plus jolie qu'aujourd'hui. Et certainement, jeune fille, elle restait la même ensorceleuse qui, enfant, se faisait chérir de tout le pays. Avec quelle passion devait donc l'aimer Alain, déjà si tendrement attaché autrefois à sa petite fleur. Elsa serra les poings en murmurant farouchement « Il faudra pourtant bien que je trouve le moyen de me venger. » Dans l'autre automobile, Florita se pencha vers la marquise. « Bonne maman, elle l'appelait toujours ainsi, avez-vous vu Elsa ? Non, où cela ? Dans une automobile qui vient de passer. Je n'ai pas remarqué non plus, dit Alain. Mais tu l'as déjà rencontrée quelquefois, je crois. 2 ou 3 fois, nous avons fait semblant de ne pas nous voir. Mais cette fois, nous nous sommes bien regardés, et je vous assure qu'elle n'avait pas l'air bon. » Madame de Pinvalas déclara.
J'aime mieux ne pas l'avoir vue. Cela m'aurait été pénible, car je vous avoue, mes enfants, que son ingratitude m'a fait profondément souffrir. » Florita mit sa main sur celle de la vieille dame. « Pauvre chère bonne maman, oh, je vous comprends. Cet enfant, vous lui aviez donné votre aide, votre affection. Quant à moi, je n'ai pas eu beaucoup de désillusions, car tout comme Alain, ma sympathie pour elle était fort limitée. Tu n'as jamais rencontré ton cousin Maurice, Alain ? Je l'ai seulement aperçu le mois dernier en passant boulevard Haussmann. Il m'a paru le même, à peu près. Mais je sais par notre cousin de Sarbreuse qu'il n'est pas précisément heureux. » Florita dit avec une pitié mêlée de dédain. « Pauvre garçon, quel malheur et quelle sottise d'être aussi faible !» Son regard, en même temps, s'attacha sur l'officier assis en face d'elle et elle pensait, le cœur palpitant de joie fière, « Toi au moins, mon Alain, tu es un fort, une âme énergique sur laquelle je pourrais m'appuyer en toute confiance. » Un sourire vint aux lèvres de monsieur de Pinvalas, anima ses yeux bleus, ardents et tendres, qui répondaient amoureusement au regard de la fiancée chérie, plus profondément chérie que jamais. Tous deux attendaient avec impatience le moment fixé pour leur mariage. Il avait été convenu que celui-ci aurait lieu au commencement de septembre, à Runesto, où Florita se rendrait un mois avant, en compagnie de madame de Pinvalas. Car la bonne aïeule, cédant au désir de son petit-fils, était venue s'installer dès le début de mai chez celui-ci. Alain, sans parler de la joie que représentait pour lui la présence de sa chère grand-mère, pouvait en outre recevoir Florita, qui venait, au moins une fois par semaine, passer la journée près de la marquise. Pepita accompagnait quelquefois sa nièce. Elle était fréquemment fatiguée, se plaignait d'avoir perdu sa belle santé d'autrefois. Mais elle semblait très satisfaite du futur mariage de Florita et ne ménageait pas à madame de Pinvalas les éloges, d'ailleurs sincères, sur son petit-fils. « Ma petite Florie sera heureuse près de lui, j'en suis sûre. C'est une nature d'élite, comme le prouve son existence, exempte de reproches, ce qui est de sa part un haut mérite, car, certes, les occasions ne doivent pas lui manquer. » De fait, le beau lieutenant de Pinvalas avait de nombreuses admiratrices que ne décourageait pas sa hautaine indifférence. Il recevait assez fréquemment des billets contenant de très chaudes déclarations. Mais rien ne l'avait amusé comme certains petits cadres en satin rose sur lequel étaient brodés des cœurs de soie mauve et qui contenaient une mèche de cheveux blonds très pâle. Un billet accompagnait ce tendre envoi, un billet fort sentimental signé « Charlotte, à vous pour toujours ». Alain n'avait pas eu de peine à en deviner l'auteur. En venant voir sa fiancée chez madame Mulbach, il avait eu deux fois l'occasion de rencontrer Lottchen dans le salon de Pepita, et les regards de la jeune personne ne lui avaient pas laissé ignorer les sentiments très vifs qu'il inspirait. Le cadre rose, avec ses cœurs mauves et la mèche de cheveux, avait été jeté au feu, ainsi que les feuillets couleur de ciel où s'étalait, en large écriture, le nom romantique de Charlotte. Et Alain se promettait bien, s'il revoyait mademoiselle Mulbach, de lui faire comprendre par son attitude qu'il était inutile de renouveler des tentatives de ce genre. Un matin du début de juillet, en revenant du quartier, l'officier trouva chez lui, causant avec sa grand-mère, Florita, qui venait d'arriver avec Anna, la femme de chambre. Toute rose et délicieusement jolie sous un chapeau de tulle noire dont elle était l'auteur, la jeune fille vint à son fiancé, qui ouvrait les bras en s'écriant joyeusement « Toi, ma fleurette, quelle bonne surprise !»« Oui, Alain chéri, je viens te demander un conseil. » Il s'informa en baisant la joue satinée. « Quoi donc, petite bien-aimée? Mon oncle et ma tante vont faire un séjour d'une quinzaine de jours chez des parents dans la Prusse rhénane. Ils voudraient m'emmener pour me faire connaître les bords du Rhin. Cela m'intéresserait beaucoup, certainement, mais je ne voudrais pas m'éloigner de toi. Tu devrais cependant profiter de cette occasion de visiter un pays qui te plaira, ma Florie. 15 jours, ce sera vite passé. » Elle inclina sa tête sur l'épaule d'Alain. « Oh oui, cela passerait vite avec toi, mais autrement. » Il baisa les cheveux blonds en murmurant avec une passion contenue. « Moi aussi, le temps me paraîtra long, mais tu ne peux guère refuser à ta tante de l'accompagner au moment où tu vas la quitter. Puis, où irais-tu? Ici, tu ne peux venir habiter. » « Oui, c'est bien ce que disait aussi bonne maman. Alors il faut que je m'en aille avec eux, Alain. » « Il me semble qu'il est impossible de faire autrement, chérie. Au retour, tu partiras pour Runesto avec grand-mère, et j'irai vous y retrouver en septembre,
aussitôt après les manœuvres. La jeune fille soupira en murmurant, puisqu'il le faut. Dans l'après-midi, l'automobile emmena Madame de Pinvalas et les fiancés vers Trianon. À la grille, ils descendirent et s'engagèrent dans les allées du parc. Comme ils approchaient du grand Trianon, un homme les croisa, un homme jeune, grand, à l'allure hautaine. Son regard se rencontra avec celui de Florita, puis se détourna aussitôt. Et l'individu hâta le pas. D'une main nerveuse, Florita saisit le bras de son fiancé. Alain, abaissant les yeux sur elle, la vit toute pâle et un peu tremblante. Il s'informa anxieusement. « Qu'as-tu, ma petite Florie ?»«
Cet homme, c'est monsieur de Reichensfeld, Alain. »«
Lui ? Ah, par exemple ?» Et l'officier faisait un mouvement pour s'élancer vers l'étranger qui s'éloignait à grands pas. Mais Florita le retint vivement. « Non, laisse-le. Tu ne peux pas lui faire une scène ici. »«
En effet, mais je sais maintenant qu'il est bien vivant, qu'il est encore en France. » Donc qu'il m'est possible de lui administrer un jour ou l'autre la leçon trop longtemps retardée.
Non, Alain, laisse tomber cela dans l'oubli.
Et elle glissait sa main sous le bras de l'officier en levant sur lui un regard de prière.
Mais Alain, les sourcils froncés, répéta. Il faudra bien qu'il me paye les angoisses par lesquelles il t'a fait passer, le misérable.